Aujourd'hui, dans À vos trousses, retrouvez l'actualité internationale avec les élèves des terminales en géopolitique du lycée Jean Vigo. Il et elle réalisent des podcasts chaque semaine et aujourd'hui, on vous propose la série 5 minutes dans le monde, du Chili à l'Iran. C'est parti pour un tour d'horizon de géopolitique.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Géopo. Aujourd'hui, pour notre première émission, nous allons parler du Chili avec notre experte Martina. Bonjour Martina.
Bonjour.
Pouvez-vous nous faire un point sur la situation actuelle au Chili ?
Oui. Alors le dimanche 4 septembre, le Chili a mis en place un référendum obligatoire pour sa population visant à adopter ou non une nouvelle constitution. Et sa population a voté non à 62%.
Pourquoi le Chili propose-t-il une nouvelle constitution ?
Tout simplement car la constitution actuelle a été mise en place durant la dictature de Pinochet en 1980. Elle est donc à l'image de la dictature, peu inclusive et peu progressive. Or, en 2019, le pays connaît une crise économique et sociale, et la jeunesse chilienne a commencé une révolte afin de changer les choses. Après de nombreuses actions et manifestations violemment réprimées, le 11 mars 2022, un président de gauche, élu il y a à peine 6 mois, Gabriel Boric, a décidé de commencer la rédaction d'une nouvelle constitution.
Et quels ont été les points forts de cette nouvelle constitution ?
Eh bien, cette constitution serait l'une des plus progressistes du monde entier. Elle traitait le sujet des droits de femmes et à l'avortement, la place des peuples indigènes dans la société, ainsi que les droits des animaux.
Mais alors pourquoi cette constitution si progressiste a été votée non à 62% alors que c'est le peuple chilien lui-même qui a demandé la rédaction de celle-ci ?
Peut-être que cette nouvelle constitution a été même trop progressiste pour le peuple chilien. Il faut noter que ce texte a été composé de 178 pages et 388 nouveaux articles. Il était donc trop confus et complexe. Ils ont voulu trop embrasser et en même temps avec le droit de l'avortement qui est le sujet très compliqué dans beaucoup de pays en ce moment, ainsi que la place des peuples indigènes qui reste aussi un sujet difficile au Chili.
Donc toutes ces manifestations n'ont servi à rien car le peuple a voté non à plus de 60%.
On ne peut pas dire qu'il a servi à rien car il montre la progression qu'un peuple, une fois dirigé par une dictature, peut avoir au fil des années. Mais il montre que vouloir faire trop en même temps ne nous amène à rien.
Je crois que j'ai toutes les réponses nécessaires pour notre podcast. On a appris alors la situation actuelle au Chili et les raisons pour lesquelles ce peuple a voté non pour la mise en place de cette nouvelle constitution que lui-même a demandé. J'espère que vous vous retrouverez à notre prochain rendez-vous. Passez une bonne journée et remerciez notre expert pour être venu pour notre podcast d'aujourd'hui.
Merci de m'avoir invité.
Bienvenue dans votre émission 5 minutes dans le monde. Et aujourd'hui, le conflit en Ukraine sera le cœur de notre actualité géopolitique et tout particulièrement sur le sujet du risque nucléaire.
Donc dans un premier temps, je vous ferai un rappel du conflit en Ukraine. Ensuite, nous enchaînerons donc sur les fameux risques nucléaires pour finir avec une analyse réalisée par mes soins.
Depuis le début de la guerre en Ukraine, le 24 février 2021, ce conflit militaire a mené à de nombreux bombardements de la part de l'offensive russe sur le territoire ukrainien, endommageant donc les régions présentes sur la côte est et nord du pays, et allant jusqu'à toucher Kiev, sa capitale. Actuellement, alors que la Russie a réussi à gagner les régions de la côte est, les bombardements ne cessent de continuer entre les deux pays. Pour autant, ceux-ci ont été amenés à toucher une première fois une centrale sous contrôle russe, celle de Zaporijjia, dans la nuit du 24 mars 2022. Elle est pour autant mise sous contrôle par les autorités russes, mais face à d'autres bombardements le 6 août, alors que 3 des 6 réacteurs sont encore opérationnels, l'Agence internationale de l'énergie atomique prévient donc d'un risque d'une catastrophe nucléaire. Comme cité dans un article du Monde nommé « Zaporijjia, centrale nucléaire au cœur de la guerre », écrit le 28 août par un auteur inconnu, l'Energoatom, qui est la compagnie nationale de production d'énergie nucléaire d'Ukraine, en vient à annoncer le 27 août que l'infrastructure de la centrale est endommagée, risquant la fuite d'hydrogène et de pulvérisation de substances radioactives. De là, l'Agence internationale de l'énergie atomique est envoyée le 1er septembre, après autorisation, pour l'inspecter. Mais actuellement, celle-ci est encore sous surveillance. Pour en venir sur une autre problématique liée au nucléaire, le 21 septembre, Vladimir Poutine s'est adressé aux Russes dans une allocution diffusée à la télévision. Dans celle-ci, il y annonce un chantage nucléaire envers l'Occident, que ses armes sont plus modernes que celles de l'OTAN, dit-il dans un extrait de vidéo de France 24, étant intitulé « Guerre en Ukraine, Vladimir Poutine mobilise les réservistes et se dit prêt à utiliser tous les moyens contre l'Occident ». Il fait référence aux menaces de l'Occident et de son alliance avec les États-Unis en envoyant des armes en Ukraine. Se retrouvant donc à réaliser une mobilisation de 300 000 soldats russes pour aller sur le front ukrainien. Il met en avant aussi qu'il n'hésiterait pas à utiliser un moyen plus drastique, donc la bombe nucléaire, si la vie de son pays et de son peuple se retrouvait en danger. Ce risque nucléaire est un enjeu important en raison de la catastrophe qui pourrait être engendrée en cas d'explosion, pouvant présenter à nouveau Tchernobyl, survenu à l'époque dans la nuit du 25 au 26 avril 1986. Cet épisode nucléaire a eu des répercussions globales sur la santé des habitants d'Europe occidentale, mais aussi sur l'environnement, la situation de radioactivité ne semblant toujours pas réglée, que ce soit pour la faune et la flore. Une nouvelle catastrophe nucléaire pourrait donc aggraver la situation actuelle, déjà bien fragilisée par le changement climatique et les conflits tels que celui entre l'Ukraine et la Russie, modifiant drastiquement la vie des habitants d'Europe, pouvant donc être amenés à influencer le monde d'une manière économique, humaine et environnementale. Je vous remercie d'avoir écouté votre émission 5 minutes dans le monde avec à son micro Adeline Perrier, qui espère vous revoir bientôt.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission 5 minutes dans le monde. Cette semaine, nous allons aborder le drame iranien qui anime les foules depuis plus d'une semaine et chamboule totalement le droit des femmes. Tout a commencé le 16 septembre 2022 lorsque Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans originaire du Kurdistan, décéda 3 jours après son arrestation par la police des mœurs en Iran pour un voile mal porté. Pour rappel, la République islamique d'Iran a mis en place une certaine police chargée de faire respecter le strict code vestimentaire, notamment pour les femmes dans l'espace public. Depuis 1979, toutes les femmes, y compris celles de nationalité étrangère, doivent se couvrir les cheveux en public dès l'âge de 7 ans. Elles ont aussi l'interdiction de porter des tenues de couleur vive, des pantalons serrés, troués, ou de porter des manteaux courts au-dessus du genou. Le 13 septembre 2022, Mahsa Amini fut donc arrêtée par la police de Meurs pour un voile mal porté. Après quelques jours passés au commissariat où elle fut violentée, Mahsa Amini se retrouva d'urgence à l'hôpital plongée dans le coma, mais malheureusement, elle s'éteignit après 3 jours d'hospitalisation. Une enquête a alors été ouverte, mais celle-ci met hors de cause la police, niant toute accusation de violence.
Suite à ce drame, des femmes ainsi que des hommes ont commencé à se révolter contre cette répression jugée féroce. Le peuple descendit dans les rues et des manifestations se déroulèrent au Kurdistan, province dont est originaire la jeune fille, ainsi qu'à Téhéran. Selon France TV Info, ces manifestations seraient pacifiques, mais le journal 20 Minutes Monde montre des heurtes violentes qui ont eu lieu au Kurdistan, entre les manifestants et la police iranienne, qui fait preuve d'une violence terrible, engendrant un grand nombre de blessés, de prisonniers ou même de morts. C'est la première fois que de nombreuses femmes descendent dans la rue en proclamant des slogans contre la République islamiste comme « mort au dictateur ». Durant les manifestations, ces femmes utilisent également leur voile comme symbole très important en les enlevant pour les brandir en l'air ou même pour les brûler. Certaines vont même jusqu'à couper leurs cheveux en signe de protestation et de soutien face à cette injustice. Grâce à cette mobilisation de masse, tout le pays se réunit. Des images ainsi que des vidéos font le tour du monde. Des femmes venant du monde entier soutenant le peuple iranien, par exemple Golshifteh Farahani, actrice iranienne réfugiée durant plusieurs années en France et vivant désormais à Ibiza, appelle à l'aide et demandant une forte mobilisation sur Instagram. Ou encore Nazana Boniadi, actrice britannico-iranienne, affirme qu'elle se réjouit de la tournure des événements, car jamais depuis le début de la dictature, les femmes n'ont mené un tel combat, en enfreignant courageusement les règles imposées par leur pays.
En revanche, les réactions des politiciens iraniens sont très diversifiées. D'un côté, certains membres de la classe politique iranienne condamnent les manifestants en les accusant de vouloir mettre le pays à feu et à sang, mais d'un autre, des hauts responsables iraniens osent désormais dénoncer cette police des mœurs et même en demander sa suppression. Au-delà de la répression policière, le gouvernement a pris plusieurs décisions et a notamment limité l'accès à Internet. Désormais, l'accès à Instagram est coupé, tout comme était celui de YouTube, Facebook, Telegram, Twitter et TikTok depuis quelques années. Grâce à cette censure, le gouvernement peut contrôler toutes les informations qui sortent et entrent dans le territoire afin d'étouffer les manifestations et instaurer la peur. Par ailleurs, il a appelé ses citoyens à organiser des rassemblements pro-régime le vendredi 23 septembre, défendant le port du voile et dénonçant les mercenaires.
À l'international, il y a, semble-t-il, peu de réactions gouvernementales. Emmanuel Macron, le président français, a rencontré le président iranien lors de l'Assemblée générale des Nations unies ce 20 septembre, mais cette rencontre a déçu un grand nombre d'Iraniens, car il n'y a eu aucune initiative afin de les aider. En revanche, plusieurs centaines d'Iraniens ont manifesté ce week-end dans les rues de Paris et notamment devant l'ambassade iranienne, dénonçant la non-réaction du président français face à cette tragédie. Des manifestations de ce type ont également eu lieu ailleurs en Europe, notamment à Athènes et à Stockholm. Reste à savoir si nous allons avoir droit à une réaction européenne face à ce soulèvement d'une population qui trop longtemps a été opprimée. Mahsa Amini devient alors le symbole de la jeunesse iranienne, assoiffée de changement et lasse de la suprématie islamiste de leur pays.
Merci à tous pour votre attention. On espère que l'actu de la semaine vous aura plu et surtout fait réfléchir. Pour plus d'actualités, retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast.
À bientôt.
Bonjour à tous et bienvenue sur cette émission. Je suis François Samin avec ma fidèle collègue Héloïse et nous allons vous parler de l'arrêt des raffineries de pétrole en France et du manque des stocks de carburant.
En effet, depuis fin septembre, une grande pénurie se fait sentir en France. Près d'un tiers des stations-service sont actuellement privées d'un ou plusieurs carburants. Dans un premier temps, nous allons vous donner le contexte de la situation actuelle, puis nous nous concentrerons sur les conséquences de cette crise.
5 raffineries sur 7 en France sont fermées suite à de diverses grèves. Malgré cela, Total Energy assure qu'il n'y aura aucun problème dans les stocks, l'essence n'étant juste pas assez acheminée vers les stations. À l'heure où je vous parle, la raffinerie située à Gonfreville-l'Orcher en Normandie est à l'arrêt selon la CGT. Elle est considérée comme la plus grande de France, et cette main-d'œuvre manquante pose un lourd poids dans cette situation.
Une baisse des prix a été mise en place par Total Energy à hauteur de 20 centimes et le gouvernement a une participation de 30 centimes. Cette ristourne sur les prix entraîne une forte augmentation de la demande. Les citoyens se ruent ainsi vers les stations pour faire leur plein. Ce cercle vicieux engendre des problèmes sur l'acheminement d'essence car dès que les pompes sont réapprovisionnées, les habitants en profitent.
Cependant, un problème est soulevé par les syndicats. L'État taxe à hauteur de 60% l'essence. 25% sont, quant à eux, dédiés au prix du pétrole et 15% restants vont à la raffinerie et à la logistique. Selon eux, le gouvernement ne participe pas assez et profite trop de la situation aux dépens des contribuables et des services de secours en manque d'essence. Diverses scènes ont été filmées à travers la France montrant des agents de la sécurité publique étant obligés de pousser leurs véhicules de service par manque de carburant. Ils sont sur empêchement de faire leur travail et donc de porter secours à la population dans le besoin.
Ainsi, après avoir parlé de la situation générale, nous allons aborder le sujet des grèves. Depuis plusieurs jours maintenant, un appel à la grève a été lancé auprès des ouvriers de Total Energy. Ceux-ci, s'arrêtant de travailler, certaines raffineries sont bloquées. Ils trouvent que le salaire des employés n'est pas assez haut, reprochant à l'entreprise d'avoir fait des bénéfices de 10,6 milliards de dollars. Des blocages des différents dépôts de carburant ont aussi été observés, et un refus des grévistes dès la première réquisition par le gouvernement fut mis en avant chez Esso ExxonMobil, ne ravitaillant ainsi donc plus les stations essence.
Nos sources sont France Bleu et France 3. Carburant. Pourquoi certaines stations-service sont-elles en rupture de stock ? Par Jade Peychorias, publié le mardi 4 octobre 2022 à 18h57. TV5 Monde avec AFP intitulé « Pénurie de carburant entre France, les raisons de la crise », mise à jour le 12 octobre 2022.
Je tiens également à vous remercier de votre écoute.
pendant ces quelques minutes en espérant que vous ayez pu apprendre quelques choses sur ce sujet-là, sur cette actualité-là. On vous retrouve ainsi la semaine prochaine pour un nouveau Code 9 dans le monde. Merci beaucoup et au revoir.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Nous laissons la place à nos prochains collègues qui développeront un nouveau sujet de géopolitique.
C'était la série de podcasts 5 minutes dans le monde, produite par les élèves des terminales en géopolitique du lycée Jean Vigo. Vous pouvez les réécouter vendredi à midi dans la rediffusion d'Avotrousse et tout le temps et partout sur notre site radiolarzac.org.